Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, on va parler littérature, puis jeux vidéo. Et aussi, un sommaire très riche avec pas moins de 6 invités, dont 5 en première heure. Tout le monde est le bienvenu. On va pousser les tables. Notre info média, ce sera autour du Tour de France qui démarre demain. Nous ferons un pas de côté avec le magazine Pédale, consacré au cyclisme, comme son nom l'indique, et qui sort tous les ans un numéro spécial juste avant le Tour de France. Donc, il est édité par Sopresse, qui a dépoussiéré la presse foot avec SoFoot ou encore les magazines d'info avec Society. Avec nous également en direct de Copenhague, parce que ça part de ce pays là-bas, je ne trouve plus le nom du pays, c'est en Scandinavie, Axel May du service des sports d'Europe 1, ça m'apprendra à ne pas noter le Danemark sur ma feuille. Nos invités ensuite, Magloire, il va animer le Toapi Voice Tour du 5 juillet au 25 août dans 21 campings de toutes les côtes de France et la promesse est énorme. Partez en vacances et devenez une star. Avant cela, vous pourrez être sélectionné comme candidat à The Voice, rien qu'en chantant devant les gens du camping. Et puis les journalistes Guillaume Caour et Catherine Just, qui signent pour Capital sur M6 un reportage qui fait froid dans le dos ou qui vous donne envie de tout casser, c'est selon, sur un sujet pourtant vu 100 fois, consacré aux compagnies low cost, il y a du nouveau. Enfin, la chanteuse Suzanne, elle part en tournée avant la sortie de son deuxième album. On va vous faire entendre 2 titres, dont le désormais fameux Clit is Good, hymne au plaisir féminin. Pourquoi fameux ? Parce que YouTube l'a interdit aux moins de 18 ans, alors qu'il n'y a strictement aucune image de nudité. Va comprendre. Justement, on va tenter de comprendre. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Luce Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde et bonjour aux Danois.
Au sommaire de votre journal des médias, c'est pas bien d'ironiser.
Gros coup pour Canal+, du côté des droits du foot. La reconversion de Roselyne Bachelot dans les médias, oui encore. Karine Ferry abandonne une de ses émissions. Vous voyez, je fais beaucoup d'ironie aujourd'hui. Et puis les sites internet Marmiton, Doctissimo, Féminin sont rachetés par un grand groupe de médias. Et enfin, les coulisses du documentaire qui a suivi Jean Castex à Matignon pendant ses 100 derniers jours en tant que Premier ministre.
Mais d'abord, les audiences qu'on regarde. Les Français hier soir en France.
Ils ont regardé France 2, le téléfilm Faux-semblant, 3 120 000 téléspectateurs, 16,5% de part d'audience. Deuxième, TF1 avec la saison 2 de sa série italienne Doc, qui continue, hein, 2 600 000 téléspectateurs, 14,6% de part d'audience. C'est à peu près stable en fait, hein, par rapport à la semaine dernière. Et puis troisième, le village préféré des Français, qui là est en baisse par rapport à l'édition précédente, 2 200 000 téléspectateurs, 12,8% de part d'audience. Je vous donne le quatrième, c'était M6, parce que c'était une émission événementielle, le plus grand karaoké de France, 1 820 000 téléspectateurs, donc c'est un score correct, on va dire. M6 à la moyenne, 10,8% de part d'audience.
Europe 1, Culture Média.
Et on débute ce journal des médias avec une grosse actualité consacrée aux droits du foot. Canal+ va diffuser toutes les Coupes d'Europe de 2024 à 2027.
Oui, toutes, et c'est une première. La chaîne vient d'obtenir les droits pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Selon le journal L'Équipe, la plateforme Amazon Prime Video aurait été elle aussi candidate, mais sans succès. Donc, petite revanche pour Canal+, puisque l'an dernier, la chaîne cryptée avait vu Amazon repartir avec 80% des droits de la Ligue 1. Alors, elle s'est réjouie dans un communiqué. Les plus grands joueurs du monde, les plus beaux chocs européens et les meilleurs joueurs et clubs français seulement sur Canal+. Elle vante aussi le nouveau format de la Champions League avec un club français en plus dans la compétition, plus de rencontres entre les clubs européens, on passe à 550 contre 427 aujourd'hui et plus de soirées européennes, 60 contre 50. Le montant de la transaction pour obtenir les droits n'a, comme d'habitude, pas été dévoilé.
Actualité Mercato, Roselyne Bachelot bientôt sur BFM TV.
Oui, l'ancienne ministre de la Culture devrait être l'un des visages de la chaîne d'information à la rentrée. Elle n'aurait pas sa propre émission, mais elle interviendrait régulièrement sur l'antenne, notamment dans l'émission Face à Duhamel. C'est une information de Télérama. Reste une condition, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique doit donner son accord. Il s'agit pour elle de déterminer si ce nouveau job n'interfère pas avec les anciennes fonctions de la ministre. En tant que ministre de la Culture, c'est elle qui était chargée des dossiers médias. Ben oui, il faut donc valider les reconversions des ministres. C'est l'une des attributions attributions de cette haute autorité. Télérama qui rappelle que les refus sont tout de même rares. Hein. Seuls 5 à 10% en moyenne des cas de reconversion sont retoqués. Si ça se fait, ce ne sera pas une première reconversion pour Roselyne Bachelot avant d'être ministre. Elle travaillait pour LCI. Un petit passage par Europe 1 aussi. Et avant cela, sur C8, enfin Direct 8 à l'époque, elle avait troqué son fauteuil de députée contre celui de chroniqueuse dans l'émission de Laurence Ferrari, Le Grand 8.
Et je crois qu'elle a déjà rejoint Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes. Du côté de TF1, Karine Ferry abandonne Danse avec les Stars.
C'est sa décision, selon elle. Elle l'a annoncé sur son compte Instagram. Elle présentait le débrief de l'émission. TF1 a su écouter mes envies et respecter mon choix. Je les en remercie. Elle insiste sur mon choix. Elle dit aussi aspirer à d'autres aventures avec TF1. Elle présente déjà sur les antennes du groupe Chronique criminelle sur TFX, le loto, des documentaires féminins. Et puis elle est présente aussi dans The Voice Kids qui reprendra bientôt.
On reste du côté de TF1. TF1 qui cède son pôle de médias numériques Unify au groupe Reworld Media.
Il s'agit de 12 marques digitales dont des sites très connus comme Marmiton, Doctissimo, au féminin, Les Numériques. Ils attirent chaque mois 25 millions de visiteurs uniques et plus de 200 millions de pages sont vues par an selon TF1. Mais ces marques ne sont pas si rentables que ça en fait pour le groupe. Et puis il dit vouloir se recentrer sur ses activités audiovisuelles. Il faut dire qu'il est en train de préparer la fusion avec M6. Le montant de la transaction n'a lui aussi pas été révélé. On sait simplement que Reworld Media s'est engagé à conserver les postes des 300 personnes qui travaillent actuellement pour Unify. Prochaine étape, la validation de l'opération par l'autorité de la concurrence, comme il en est d'usage.
Le festival Série Série, festival dont Europe 1 est le partenaire, fait son retour avec une nouveauté.
Oui, pour une 11e édition, il commence aujourd'hui jusqu'au 2 juillet en région parisienne, à Fontainebleau, avec des débats, des rencontres, des projections. Et la programmation tourne cette année autour d'une question. La fiction peut-elle rendre le monde meilleur ? Vous avez 3 jours. C'est un festival qui réunit des professionnels du secteur, mais qui s'ouvre cette année au public, notamment en proposant une nouveauté. L'été des séries sont des événements pendant tout le mois de juillet en Ile-de-France. Il y aura des projections de séries en plein air sur grand écran à la tombée de la nuit, comme par exemple la saison 2 de l'Opéra et celle de Jeux d'Influence, la saison 3 de La Guerre des Mondes. Et puis il y aura aussi toute une nuit des séries, 4h30 de séries avec des avant-premières de la plateforme France TV Slash. Et puis les équipes seront présentes, les acteurs, les producteurs, et c'est gratuit.
Europe 1.
Et on termine avec le focus programme du jour, le documentaire « Derniers jours à Matignon », documentaire diffusé ce soir sur France 2.
Oui, on suit l'ancien Premier ministre Jean Castex pendant ses 100 derniers jours. Hasard de l'actualité, les équipes de France 2 ont posé leur caméra pour la première fois à Matignon le 23 février, soit la veille du début de la guerre en Ukraine.
Incroyable.
Oui, ils voulaient filmer ce qui se passe à Matignon 100 jours avant une élection présidentielle. Et bien, ils se sont retrouvés aussi au cœur d'une très forte actualité. Dans ce documentaire, on découvre comment fonctionne Matignon. On y suit les réunions du cabinet, les stratégies de communication, comment certaines décisions sont prises aussi, par exemple sur l'aide face à la hausse du prix de l'essence. Vous ne verrez en revanche rien de la vie privée de Jean Castex, qui a strictement refusé d'être filmé avec sa famille ou dans les appartements privés ou quand il fait son sport le matin. Oui, c'est une petite confidence d'un des réalisateurs. Justement, ce co-réalisateur et auteur Renaud Revel m'a expliqué les coulisses du tournage. Si les équipes de Matignon ont rapidement accepté le principe d'un documentaire, ensuite, il a fallu quand même négocier chaque accès une fois sur place.
Ça n'a pas été très simple parce qu'il a fallu s'adapter au rythme de ses équipes et au tempérament d'un Premier ministre qui n'était pas simple et pas facile à du maniement. Il a fallu négocier au coup par coup. Hein. Donc il a fallu gérer à la fois le caractère de Castex, qui n'est pas un homme facile, qui est dur, hein, qui est un garçon dont on avait une image un peu patelin. Bonhomme, un accent chantant, en vérité c'est quelqu'un d'autoritaire, qui a un grand sens de l'État, une grosse autorité sur ses équipes, et on a découvert quelqu'un qui a une charge de travail monumentale, et une maison Matignon aussi, qui est une entreprise qui vit à 100 à l'heure.
Et ils ont réussi à le filmer jusqu'au bout, les derniers cartons, la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne, les au revoir aux équipes. Et il lit même sa lettre de démission assis à son bureau quelques minutes avant d'aller la remettre à Emmanuel Macron. Et puis au-delà de Jean Castex, les équipes ont aussi beaucoup filmé ceux qui travaillent à Matignon, les jeunes conseillers qui ne comptent pas leurs heures, la directrice de communication du Premier ministre, le maître d'hôtel aussi qui s'apprêtait à prendre sa retraite après 34 années passées à Matignon. Il a vu défiler 14 premiers ministres. Une volonté pour ces réalisateurs de montrer les coulisses du lieu.
Il fallait raconter cette maison aussi, on la connaît peu. Hein. On connaît bien l'Élysée, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur l'Élysée depuis 30 ou 40 ans, au-delà de ça. Moult documentaires, mais sur Matignon, on s'est aperçu que finalement, il y a très peu de choses. C'est assez marrant la différence, parce que l'Élysée, c'est une cathédrale. Il c'est très silencieux, c'est très empesé, il n'y a pas de bruit l'Élysée. Matignon, c'est une usine, c'est une fourmilière, il y a un bruit Matignon hallucinant du matin au soir, beaucoup beaucoup de monde, de très nombreux métiers, et ça n'arrête pas. Les portes claquent, les parquets grincent. On voulait voir un petit peu comment cette machine tournait. Des cuisines aux huissiers, des huissiers aux secrétaires, des gendarmes au cabinet du Premier ministre.
Dernier jour à Matignon est diffusé ce soir à 22h40. C'est réalisé par Julien Ferrat, Guillaume Martin et Renaud Revel qu'on vient d'entendre.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Suffit de s'inscrire, c'est gratuit sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour. C'est l'un des événements sportifs les plus médiatiques du monde. Ça démarre demain, vous l'avez reconnu. C'est le Tour de France. Nous recevrons Pierre Boisson, l'un des rédacteurs chefs du magazine qui parle de vélo avec un ton bien à part. Il s'appelle Pédale, ce magazine, avec une majuscule à la fin, au début, et avec un point d'exclamation à la fin. Nous serons en direct du Danemark, de Copenhague, où débute donc cette première étape avec notre journaliste européen Axel May.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Demain va démarrer l'un des événements sportifs les plus médiatiques au monde, le Tour de France. La Grande Boucle, c'est 7800 heures de diffusion directe dans le monde sur 100 chaînes différentes et disponible sur un total de 190 pays. J'explique, il y a moins de chaînes que de pays parce qu'il y a parfois une chaîne qui diffuse sur plusieurs pays. C'est également à l'heure du numérique, plus de 9 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et c'est également l'événement sur Europe 1 qui suit le Tour depuis 67 ans. Cette année encore, nos journalistes vont vous faire vivre les 21 étapes dans de nombreux rendez-vous et aussi avec notre consultant Richard Virenque. Alors on parle de la télé, du numérique, de la radio, on va parler à présent de la presse écrite. Comme chaque année depuis 12 ans, le magazine Pédale sort son unique numéro annuel à la veille du Tour. C'est une autre manière de couvrir l'événement en amont et tout en réflexion. Quand Europe 1 rencontre le magazine Pédale, c'est ce matin dans Culture Média. Bonjour Pierre Boisson.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et rédacteur chef de Society. Vous y avez notamment écrit la fameuse enquête autour de Xavier Dupont de Ligonnès et sa disparition. Et donc, vous êtes rédacteur chef de ce magazine, je l'ai déjà dit. Pourquoi ce choix de vocable Pédale avec un point d'exclamation ?
Alors, ça a été lancé il y a 12 ans, donc ouais. Ça remonte à loin. Mais en fait, l'idée, c'était de... Le leitmotiv du magazine, c'était parce que le vélo a le droit à la différence. Et du coup, c'était un jeu de mots et qui transcrit l'esprit du magazine, c'est-à-dire que on veut raconter les petites histoires et les grandes histoires du vélo en s'amusant, en prenant en fait tout ce qu'il y a de drôle dans le vélo, et il y en a beaucoup des histoires drôles, mais aussi tout ce qu'il y a de triste. Et on s'est aperçu au fur et à mesure des années que c'était un sport qui générait des aventures et des histoires extraordinaires et des destins très particuliers. Donc c'est vraiment ce à quoi on s'attache dans le magazine.
Vous venez de raconter le positionnement du magazine, j'ai pas besoin de vous poser la question que j'avais préparée ensuite pour vous. Axel May, bonjour, salut.
Salut, bonjour Philippe.
Les auditeurs d'Europe vous connaissent bien, vous êtes notre journaliste sport, vous allez suivre pour nous ce Tour de France 2022 avec Martin Lange. Vous êtes en direct de Copenhague où la première étape va démarrer demain. L'ambiance sur place, c'est comment ?
Alors, l'ambiance, on a pu vraiment déjà y goûter hier soir, parce que vous savez, il y a deux jours avant le départ, la traditionnelle présentation des équipes qui vont sur un podium, qui en l'occurrence est installé en plein centre-ville, devant l'hôtel de ville, dans un parc d'attractions qui s'appelle les Jardins de Tivoli, ouais. Parc très ancien, qui date du 19e siècle. Et alors là, il y avait beaucoup de monde et une ambiance vraiment assez indescriptible.
Avec des applaudissements, j'imagine. Est-ce que vous avez croisé Romain Bardet ou pas du tout ?
Oui, j'ai croisé Romain Bardet, mais c'est pas lui qui s'est le fait plus applaudir. Ce sont les Sorensen, les Kasper Asgreen qui sont des Danois. Et alors là, il y avait vraiment un mouvement de foule lorsqu'ils arrivaient sur le podium. C'était assez impressionnant.
Est-ce que c'était mixte ? Parce que souvent, les sports sont plus appréciés des garçons que des filles. Est-ce qu'il y avait beaucoup de filles qui étaient là ou...
Oui, alors en plus, le Tour de France a la particularité de se dérouler souvent pendant les vacances scolaires. C'est particulièrement le cas au mois de juillet. Tout le monde se souvient d'être allé en famille avec ses grands-parents. Hein. C'est un peu l'image d'Épinal, voir la grande boucle passer. Et là, à l'approche du week-end, ouais, y a beaucoup, beaucoup de familles. Donc, c'est mixte et c'est très familial l'ambiance ici.
Je vous parle de Romain Bardet parce qu'il est à la une du dernier numéro de Pédale. Ça va barder, c'est le titre. Lisez cette interview, c'est le sous-titre, et criez son nom cet été. Pierre Boisson, pourquoi cette une ? Pourquoi ce choix de Bardet ?
En fait, on lance Romain Bardet au dernier moment. parce qu'il abandonne sur le Giro, il est malade, il a une gastro, on n'était pas sûr qu'il fasse le tour avant. Donc on lui envoie un petit message, on lui dit « voilà, j'espère que ça va mieux, et est-ce que tu connais le magazine Pédale, est-ce que tu voudrais y participer ?» Et Romain Bardet nous répond tout de suite et il dit « bien sûr que je connais le magazine, mais je pensais que j'étais pas assez cool pour en faire partie. » Il nous a dit « venez chez moi », donc on est allé à Clermont-Ferrand, on a passé 6 heures avec Romain Bardet, on a bu quelques bouteilles de vin, et il nous a raconté, je pense, sa vérité avec vraiment transparence et intégrité. Moi, je pense que l'interview est vraiment à lire. Ça nous fait découvrir un Romain Bardet un peu différent de cette image très cadrée, très rationnelle, très professionnelle qu'il avait.
On apprend par exemple qu'il écoute des podcasts de France Culture, donc il est vu un petit peu comme même pas un intello dans le peloton, mais comme un ovni. C'est aussi pour ça que vous l'avez choisi, c'est parce qu'il était différent des autres, de la même manière que votre journal est différent des autres, ou je me trompe?
Nous, on a toujours été un peu Thibaut Pinot, en fait, bizarrement. Ah. Parce que pour son côté romantique, parce qu'il perd, etc. Et là, Romain Bardet a une... Tout d'un coup, il lui arrive des aventures, il abandonne sur le Giro, etc. Ça lui donne une sorte d'étoffe, d'envergure qu'il n'avait pas avant, qui nous donne envie de le suivre, qui nous donne envie de crier son nom cet été.
Interview fleuve de ce coureur dans votre magazine, réalisé par Vincent Rioux et Ronan Bocher. Deuxième question de l'entretien, tu gagnes combien avec le vélo? Et là, il vous répond, réponse de Bardet, 1,5 million, taxé à 45%, donc aux alentours de 50 000 euros par mois. C'est beaucoup d'argent. Mais je sais de combien j'ai besoin pour être heureux. J'ai une Porsche dans mon garage, une belle maison qui vaut 1 million d'euros. Pas besoin d'une deuxième grosse bagnole ou d'une deuxième maison. Ils parlent tous si facilement d'argent dans le cyclisme. Ou est-ce que c'est Romain Bardet? Ou est-ce que c'est Romain Bardet dans Pédale?
Je dirais un peu les trois, mais ce dont on s'est rendu compte au fur et à mesure des années, c'est que vous faites du vélo, je sais. Sur un vélo, on ne triche pas.
On
ne peut pas tricher.
Pas
j'ai l'impression
semblant.
Que...
C'est vrai, c'est faux. Ce que vous dites, c'est justement tout le scandale du cyclisme, c'est que certains avaient triché sur le vélo.
Quand on est tout seul dans un col sur un vélo, on ne peut pas tricher. Oui. Et finalement, tous ces sportifs, à un moment, se retrouvent tout seuls dans un col. Et bizarrement, quand ils sont dans une interview, ils n'arrivent pas à voir la langue de bois. Quand on passe 5 heures avec quelqu'un, la langue de bois, elle part très très vite. Il y a une intégrité, une transparence sur ce qu'il raconte. Qui est très impressionnante. Moi, j'ai fait des interviews de cyclistes où, au bout de 3 questions, ils me parlaient de leur rapport avec leur femme et de comment ça allait mal dans leur couple en ce moment. C'est vraiment très, très surprenant. C'est un sport où les hommes se révèlent comme dans aucun autre.
Juste un mot, et ces interviews et ces passages-là, vous les avez publiés ou vous les avez gardés pour vous parce que c'était attentatoire à la vie privée?
Non, quand c'est eux qui nous le disent, souvent c'est lié à leur carrière. Beaucoup de cyclistes après carrière ont des problèmes de couple parce que tout d'un coup ils rentrent à la maison.
Après carrière. Axel May, le magazine Pédale obtient des interviews en amont des courses. Et pour vous, comment ça va se passer le travail au quotidien pour obtenir les interviews des coureurs? Parce qu'il y a une concurrence énorme de médias du monde entier. Comment vous allez faire?
Alors déjà, avant le départ, et c'est vrai pour toutes les grosses compétitions sportives, il y a les conférences de presse d'avant-course. Avec la particularité, c'est que depuis 2 ans, elles sont essentiellement en visioconférence. Cette année, on pensait que le Covid allait nous laisser un peu tranquille. Il repart assez fort, vous le savez. Et du coup, il n'y a que sur la vingtaine d'équipes présentes, il y en a 2 ou 3 simplement qui font en présentiel les conférences de presse. Donc là, c'est où tout le monde est présent. Et ensuite, c'est d'aller au départ et de négocier avec l'attaché de presse de l'équipe, avec le directeur sportif, quelquefois avec le coureur directement s'il n'est pas trop connu, une interview au départ. À l'arrivée, c'est plus compliqué parce que là, c'est la cohue. Quand c'est un sprint, quand c'est en montagne, ils sont fatigués, ils repartent vite. Donc c'est mieux pour avoir les interviews de les faire avant le départ de l'étape et puis donc lors de ces conférences de presse qui ont commencé hier et qui vont se poursuivre aujourd'hui, ces conférences de presse d'avant-course.
Je vous demanderai si vous avez mis des interviews en boîte et si les équipes qui ont décidé de parler sont des équipes françaises, en tout cas francophones. Culture Média revient. Axel May à Copenhague, Pierre Boisson avec un beau t-shirt de Thibaut Pinot. Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle du Tour de France qui démarre demain. C'est une compétition sportive, mais c'est presque également une compétition médiatique, tant il y a de journalistes et d'organes de diffusion qui sont autour de cet événement. On est avec Axel May qui est en direct depuis Copenhague où la course va partir demain et Pierre Boisson qui est un des rédacteurs-chefs de Pédale qui sort un numéro spécial comme chaque fois avant que le Tour démarre désormais depuis 12 ans. Axel May d'Europe 1, le Tour et Europe, c'est une longue histoire. Première couverture en 1955 avec à l'antenne des journalistes de la maison pour raconter les rebondissements au jour le jour. Ce fut le cas en 57, on est le 28 juin, c'est le 2e jour d'étape et là, c'est le drame. Le favori abandonne, récit du journaliste Fernand Choisel.
Cette deuxième étape du Tour de France qui nous menait de Granville à Caen a été marquée par un événement sensationnel, événement auquel aucun suiveur ne pouvait s'attendre au départ du Tour et même au départ ce matin de Granville. En effet, Charlie Gaul, favori logique de ce Tour de France, a été éliminé. À la sortie de Cherbourg, sur la longue côte qui suit le contrôle de ravitaillement, Charlie Gaul, d'un seul coup, s'est laissé glisser en queue de peloton. Il a été attendu par ses coéquipiers Ernzer, par Robinson, par Morn, par Kempt, mais Charlie Gaul ne pouvait plus avancer et le docteur Dumas, médecin du Tour, a été obligé de venir près de Charlie Gaul afin de lui passer quelques bidons. Charlie Gaul souffrait en effet de l'estomac, il souffrait d'une crise de foie et il souffrait surtout, comme beaucoup de coureurs, de la chaleur.
J'aime beaucoup le recul avec lequel il dit « un événement sensationnel ». Une espèce de rigueur journalistique. Axel May, 65 ans après la crise de foie de Charlie Gaul, quel va être le dispositif d'Europe 1 cette année ?
Je peux juste vous dire que les soucis gastriques existent toujours dans le, ouais. dans le vélo. Ouais.
Le dispositif maintenant, les commentateurs, ils hurlent. On n'a plus ce ton académique.
Académique, effectivement. Ni le grésillement qui est toujours savoureux dans le micro. Alors, le dispositif, alors, il faut l'avouer, il est un petit peu réduit parce que ça aussi, c'est historique. Hein, la moto a disparu, donc on n'a plus la fameuse moto qui allait au départ des arrivées et avec lesquelles on faisait des points à chaque heure. Avec là aussi cette petite mélodie estivale où parfois la liaison passait mal. Donc le dispositif, en gros, il y a un journaliste, donc soit Martin Lange, soit moi-même, qui allons à l'arrivée pour commenter depuis la ligne d'arrivée avec les installations faites par le réalisateur Julien Or. Et puis, au départ, l'autre journaliste va faire les interviews dont je vous parlais tout à l'heure, les interviews d'avant-course qui sont les plus faciles à faire. Et puis, après, il y a donc les flashs aux heures. Il y a le résumé de l'étape dans le journal du soir, le journal du tour à 8h30. Ah. Et puis, tous les jours, un club tour de 10 minutes, un quart d'heure aux alentours de 19h45 avec Richard Virenque qui sera aussi avec nous en direct.
Exactement. Richard Virenque qui sera ici depuis Paris, depuis le Club Tour, où il vous suit là-bas. Comment ça se passe ?
Alors, pour tout dire, il sera chez lui dans le Var, le Varois Richard Virenque, parce que là aussi, c'est une conséquence globale hein, des restrictions budgétaires. Généralement, la plupart des stars comme ça, des consultants stars, je pense aussi à Laurent Jalabert, qui est chez les concurrents d'une Maison Rouge, eh bien, ils sont payés par des sponsors. Et Richard Virenque avait un gros sponsor qui ne l'a plus pris. Et donc, nous avons venu se greffer au sponsor pour profiter de Richard Virenque sur place. Donc, cette fois, on l'a encore, mais effectivement, il sera chez lui et on entendra parfois sans doute les cigales derrière Richard quand il sera en direct avec nous.
C'est absolument passionnant d'entendre ainsi les coulisses du Tour et les coulisses du modèle économique du cyclisme. Justement, Pierre Boisson, le magazine Pédale, c'est un format annuel qui sort depuis 12 ans pour le Tour de France. Pourquoi ce choix ? Pourquoi pas dans l'année ? Le cyclisme n'existe pas assez pour le Tour de France, en tout cas pas assez pour toucher les lecteurs.
Je pense qu'en France, le cyclisme est vraiment très associé au Tour de France. Il y a une culture qui est en train de se développer où les gens commencent à regarder des classiques, les Paris-Roubaix, les Tours des Flandres. Mais on n'est pas la Belgique où les gens vivent le cyclisme toute l'année. La France, c'est un rendez-vous et du coup, nous, on a voulu le suivre. Donc on sort tous les ans juste avant le Tour et c'est un peu la petite Madeleine de Proust de l'enfance qu'on retrouve et c'est pour ça que les gens aiment le Tour et c'est pour ça que les gens, j'espère, aiment Pédale.
C'est militant parce que vous êtes des passionnés du Tour ou est-ce que c'est rentable ? Le numéro, il n'est pas vendu cher du tout, 6,50 € pour un beau numéro en couleur et dos carré. C'est pas hors de prix.
C'est les deux. Pour le coup, c'est vraiment militant à la base. On est tous des fans du Tour et on est vraiment du Tour. C'est-à-dire qu'on aime le vélo. On a des souvenirs des années 80 ou des années 90. Les noms, les Berzin, les Olano, les Indurain, ça résonne dans notre cerveau. Et puis ça marche parce que tous les ans, vraiment, on a le même nombre de lecteurs. On l'a gardé volontairement pas cher alors que le prix du papier, vous le savez, a décollé en France. Nous, on a décidé de garder à 6,50 € pour le rendre accessible. Et il a été... les gens se l'arrachent sur les réseaux sociaux. On nous demande, il n'y en a plus à Nîmes, il n'y en a plus à Montpellier. C'est vraiment la course aux pédales.
Alors, on parlait de son avec Axel May. Il y a une nouveauté cette année, Pierre Boisson. Vous allez sortir un podcast quotidien. Ça va s'appeler Pédale Recall. C'est bien ça. Pourquoi un podcast et à quoi ça va ressembler ?
C'est pour suivre un tout petit peu le tour au jour le jour, ce qu'on peut pas faire dans le magazine puisque finalement on sort une seule fois par an avant. Ça va ressembler à Une pastille qui annonce la prédiction du jour. On reviendra, voilà, on essayera de manière
attendez,
un peu absurde.
La prédiction du jour, elle est sérieuse ou elle est fantaisiste?
J'ai fait la première prédiction sur le contre-la-montre. C'est Philippe Ogana qui se retrouve avec Stéphane Kung déguisé en viking et en peau de bête qui vient l'espionner au départ du contre-la-montre.
Donc c'est de la blague?
C'est de la blague, mais en même temps c'est réel parce qu'il y a beaucoup d'espionnage dans le vélo, dans le contre-la-montre, parce que c'est une discipline très technique et tactique. Il y a des innovations technologiques qui font parfois la différence. Et cette année, le contre-la-montre va donner le premier maillot jaune. Et il y a beaucoup de coureurs qui le préparent depuis des mois. Donc on s'attend à ce qu'il y ait un plateau très relevé et peut-être des innovations technologiques.
Papier absolument passionnant sur le contre-la-montre. On apprend que c'est aussi des maths, c'est de la tactique. Ça change tous les ans, que les positions sur le vélo, c'est juste dingo. Si on se met dans une position, on va vite, mais on a mal. Si on se met dans une autre position, on a pas mal, mais on va pas vite. Et donc le coureur doit choisir entre la douleur et la performance. J'avais jamais vu le contre-la-montre comme ça avant de lire votre papier. Axel May, 21 étapes, vous attendez à quoi durant ce parcours? Comment ça va se passer pour vous sur la route? Et autre question, est-ce que vous allez avoir le droit d'entrer dans le bus de l'équipe pour avoir des confidences?
Alors le bus, c'est toujours un peu compliqué, surtout sur les grandes courses comme le Tour de France où il y a une grosse pression médiatique. Sur les autres courses, c'est plus facile. Donc le bus, en plus avec le contexte du Covid actuellement, je pense que ça sera difficile, mais juste à la sortie du bus. Ouais. Pour l'instant, officiellement, hein, je dis pour l'instant, le paddock, là où se rangent les bus, est encore ouvert. Donc on pourra y aller. Et après, alors pour vous dire comment ça va se dérouler, d'ailleurs, je suis d'accord avec notre camarade de pédale. Oui, Ganna, double champion du monde du contre-la-montre italien. Là, c'est pas un pronostic très compliqué de penser qu'il va remporter demain le contre-la-montre. Et ensuite, ça va être, les coureurs ont coutume de dire là, que ça sera une première semaine très nerveuse, avec des bordures, avec du vent, des cassures, le Danemark, l'arrivée dans les pavés du Nord, avant ensuite un tour plus classique et l'enchaînement planche des belles filets des Alpes et les Pyrénées. Et quant aux favoris, je mettrais quand même une grosse pièce sur un Slovène.
Voilà, et je m'interdis de poser la question, est-ce qu'un Français a une chance de gagner le Tour cette année? Merci beaucoup Axel May. On peut suivre dès demain le Tour de France sur Europe 1, le journal du Tour, c'est en semaine à 8h30, le week-end à 7h30. On va retrouver Richard Virenque chaque jour dans Europe Midi et aussi à 19h40 dans le Club Tour. J'ai tout dit, Pierre Boisson, pédale disponible dans les kiosques, là où il en reste, notamment avec la collaboration de Johan Tritz, journaliste Europe 1. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux. Culture Média continue dans un instant. Tout à fait autre chose. C'est un tour dont on va parler, mais pas le Tour de France, le tour des campings. C'est le Tohapi Voice Tour dans 21 campings de France. Magloire sera avec nous et puis on va parler d'un reportage édifiant de Capital sur les compagnies aériennes low cost. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Magloire.
Mais bonjour Philippe, merci de me recevoir.
Un animateur télé, c'est un plaisir, mais pas seulement. Vous avez découvert dans le Morning Live sur M6 avec Michael Youn, dans La Folle Route avec Vincent McDoom, encore au cinéma dans Is No Good. Vous étiez encore la saison passée dans l'un des programmes phares de l'été, c'était Fort Boyard. Et votre actu, c'est le Tohapi Voice Tour. Ça va se passer cet été, du 5 juillet jusqu'au 25 août, dans les campings en bord de mer. Alors quand on voit l'affiche et cette promesse, on se dit waouh, voilà ce qui est écrit. Partez en vacances et devenez une star. De quoi s'agit-il?
C'est exactement ça. Nous avons le bonheur de pouvoir travailler avec un garçon formidable qui est directeur artistique émérite pour des comédies musicales. Il a, je crois, un millier de chanteurs et de voix de chanteurs dans son oreille. C'est Bruno Berberès. Et Bruno Berberès, on le connaît aussi parce qu'il travaille pour une grande émission de télévision, de télécrochet qui s'appelle The Voice. Mmh. Et donc, c'est lui qui fait les castings pour The Voice. Et donc, il nous a donné la possibilité de faire donc des castings. Et puis il regardera un peu ce que nous avons trouvé ou pas. Et donc j'ai pris aussi nous avons demandé à quelques échappés, dont Sidoine, dont Stéphane, et quelques échappés de The Voice de venir chanter.
Ça va se passer concrètement? On est dans un camping. Mince, j'ai oublié de noter la liste des campings. Elle est hyper impressionnante.
Vous savez, Tohapi, c'est le leader européen. Vacances Select, c'est le leader européen des vacances en plein air. Mm-hmm. C'est plus du tout le camping à la papa. Hein. Mm-hmm. C'est des clubs de vacances absolument sublimes. C'est hyper familial. Et on leur propose effectivement aussi de s'amuser. Il y ils peuvent tout faire. C'est tellement bon, magnifique. Et donc, parmi tout ça, on leur propose donc des animations. Et parmi ces animations, il y a la possibilité de partir en vacances et d'accéder, pourquoi pas, à l'oreille de M. Berberet.
Mais alors, comment ça se passe ? On est dans le camping, on s'inscrit, on voit la date.
Et puis, on vient faire comme une espèce de pré-casting avec un professionnel, des professionnels et surtout les gens du camping, la direction du camping. Et puis, on filme tout. On filme tout, on ne monte pas et on envoie tout à Bruno Berberes qui, lui, dans le huis clos de son salon, décidera de prendre quelqu'un ou pas.
Et c'est lui qui va choisir les gens.
Et c'est lui qui va choisir les gens pour ses comédies musicales, pour son émission célébrissime et pour d'autres choses parce qu'il fait tellement de choses, ce monsieur.
Votre rôle, ça va être lequel, Magloire ?
Oh, ça va être d'être un petit peu le MC, on va dire. J'essaie d'orchestrer tout ça, donc de le faire au mieux parce que c'est vrai qu'il y a aussi des talents là-bas. Quand je vois ce que font l'équipe de Bruno toute l'année, sur les routes, dans des radios, chez vos collègues en province, dernièrement encore chez Direct FM, dans l'Est de la France, à Metz, je me dis, il y a peut-être aussi, ici aussi, puisqu'on leur fait faire plein de choses, ils ont plein de possibilités d'accès aux des divertissements, pourquoi ne pas tenter de les faire aussi chanter, s'exprimer, pourquoi pas ouvrir une carrière.
Et je pense à quelque chose, il y a tellement d'humoristes qui ont démarré au Club Med.
Mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est plutôt les voix qui intéressent tout le monde, ça fonctionne, et bien on les présente, on nous donne la possibilité d'avoir accès aux meilleurs.
Vous allez chanter vous-même ou pas du tout ?
Non, je ne ferai pas cette
allure. Vous allez faire un petit numéro, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Parce que chanteurs, les ex de The Voice, alors j'ai noté des noms, Marie Milton, Sonia, Stéphane, Sidoine, Gauthier, Axel, ils vont chanter aussi.
Ils vont chanter,
bien sûr. Une sorte de tour de chant. C'est un petit spectacle que vous organisez.
Il y a un vrai spectacle avec une direction artistique, toujours notre ami Bruno Berberes, qui est en deuxième partie, mais en première partie, nous avons effectivement ce petit radio crochet. Oui. Alors, vous savez, quand je vois ce qui se passe chez Toapi, c'est vraiment les vacances familiales, d'accord ? C'est ouvert aux grands, il y a des
clubs. On est une émission média, on n'est pas là pour faire la promo d'une marque de camping.
Non, mais ils sont là, en toute simplicité,
d'accord.
On sort de la piscine, on sort de la mer, et tout d'un coup, on se retrouve devant des pros.
Oui, c'est le casting, c'est le camping,
Oui, mais dans un camping, c'est un peu différent.
On est d'accord, devant des pros. Que gagne le vainqueur, ou la vainqueuse, ou la gagnante ?
L'espoir d'être vu et repéré par Bruno, surtout. Et puis quelques jolis cadeaux, bien sûr, que nous leur offrons.
C'est la deuxième saison ?
C'est la deuxième saison.
Quid du gagnant ou de la gagnante de la première saison ? Est-ce qu'elle a été repérée ?
Il y a une personne qui a été repérée, et puis j'ai un scoop. Je crois que quelqu'un qui avait été repéré l'année dernière, qui a beaucoup travaillé entre-temps, sera dans la saison prochaine, mais je crois que je ne dois pas m'avancer plus que ça pour le dire. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui ont accès et qui rencontrent Bruno.
La saison prochaine de The Voice.
Absolument.
Vous n'avez pas osé le dire, je le dis à votre place. Autre actualité, j'ai appris que vous étiez en train de réaliser une série documentaire qui va être diffusée sur TV5 Monde à la rentrée. Ça va s'appeler Rassemblance, qui est un mot valise entre ressembler et rassembler. 20 épisodes qui vont raconter quoi ?
Donc là, c'est une très belle histoire que je suis en train de vivre grâce à Memento et à Broadster. Aurélien Combel, le producteur...
Je souris parce que vous citez toutes les marques.
C'est mode de production.
Tous les sponsors.
Oh, Philippe.
Il donne tous les noms. Vous êtes très, je vous le reproche pas, mais vous êtes très, très, très corporate.
Oui, mais parce que c'est grâce à eux que je peux vivre cette aventure.
J'ai bien
sur
compris.
Les routes de France.
Ça ne m'avait pas échappé.
Où je mets devant la caméra des gens qui ont un parcours particulier, un parcours étonnant. Pour une fois, donnant la parole à des gens qui ont quelque chose à dire, ce qui est assez rare en ce moment.
Un parcours particulier, c'est un petit peu le vôtre. Je vais faire très, très court. Vous êtes né au Togo.
Non,
vous êtes...
je suis né en France.
En France.
À Saint-Céré dans le Lot, les pauvres chéris.
Ah, merci beaucoup. Vous n'êtes pas d'origine togolaise.
Je suis originaire du Togo, mais je suis né à Saint-Céré.
D'accord.
J'ai cette chance-là.
Beaucoup d'erreurs écrites sur votre biographie. Ce n'est pas la première erreur dans
non,
la presse.
Non, pas grave.
Et vous avez été adopté par une famille française.
Absolument,
ou pas
par une femme formidable qui s'appelait Raphaël Delcros.
Enfin, voilà. Et c'est un peu votre histoire que vous voulez magnifier, cristalliser à travers ce documentaire.
Vous et moi, dans ce studio, on a un point commun, c'est notre humanité. Mais on a aussi plein de différences. Et vos richesses, pour moi, c'est vos différences. Donc effectivement, je vais voir des gens qui sont différents. Donc ça va être des Iraniens, des Mexicains ou des Italiens d'origine. Tous des gens qui ont un parcours étonnant.
Un exemple de parcours que vous avez déjà filmé, parce que vous avez déjà commencé à tourner.
Une Guinéenne. Une Guinéenne qui est arbitre de foot et qui, pour être arbitre de foot pour les hommes, a dû venir en France. Un Italien qui a 80 ans aujourd'hui, qui s'appelle Auguste, qui est arrivé avec presque rien en France et qui aujourd'hui, après 30 ans de bureau d'études, installe des choses étonnantes. Un Somalien très jeune qui a connu la barbarie de l'esclavage en Libye ces dernières années et qui aujourd'hui a la revanche supérieure de sourire et de nous expliquer ça formidablement bien.
un mot, parce que vous avez également signé un film documentaire qui s'appelle Grossophobia, pour dénoncer la grossophobie, film qui a reçu des prix. Vous allez continuer à travailler dans cette veine-là?
Si mon cher producteur, je ne devrais pas redire son nom. Aurélien Combel veut bien. Et si les gens avec qui j'avais écrit le premier, qui ont écrit le premier, qui sont des jeunes de Tarnos, à côté de Bayonne, et bien si tout ce petit monde a envie, moi j'en ai très envie, oui. Effectivement, dénoncer ce genre de racisme, oui, je le ferai avec grand plaisir, parce que c'est ça.
Je vais vous dire une chose que vous aviez dite un jour et qui m'avait tellement touché, c'était en 2019, c'était sur le site Comitid. Vous aviez dit, Magloire, je me suis rendu compte que je pouvais être noir, homosexuel, ancien animateur sans travail, je n'aurais jamais eu autant d'insultes que par le fait que je suis gros.
Oui, c'est vrai.
On a peine à le croire, c'est justement parce que c'est vrai que ça m'a touché.
Oui.
Et je pensais que les mentalités étaient en train d'évoluer lentement, et ça vous mouille les yeux.
Oui.
Merci d'avoir été avec nous, Magloire. Je rappelle, je vais les citer, le Toapi Voice Tour du 5 juillet au 25 août dans 21 campings de toutes les côtes de France. Merci d'avoir été avec nous, Magloire.
Merci à vous.
À suivre,
Philippe.
Le producteur Guillaume Caour, la journaliste Catherine Just, y signe un reportage édifiant sur les compagnies low cost toujours moins chères. Ce sera dimanche dans Capital et dans quelques instants dans Culture Média sur Europe.
11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Guillaume Caour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes rédacteur-chef, vous travaillez sur l'émission Capital. Ça se passe au sein de STP Productions, vous avez produit ce reportage, compagnie low cost toujours moins chère, qui sera diffusée donc dimanche sur M6 à 21h. Enquête signée Catherine Just. Bonjour.
Bonjour.
Je ne vais pas vous demander si c'est votre vrai nom, on a dû vous la faire mille fois. Question Catherine Just, pourquoi vous êtes-vous intéressée au business des compagnies low cost, sujet lui-même déjà traité au moins mille fois?
Eh bien parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des changements importants depuis la crise du Covid, des changements tarifaires qui contrarient un peu les clients, des coûts cachés auxquels on a voulu prévenir les gens. Attention, si vous avez des habitudes, il va falloir relire les lignes.
Guillaume Caour.
Oui, le cahier des charges pour Catherine et pour la journaliste qui s'est fait embaucher dans un des aéroports low cost, c'était justement de ne pas faire ce sujet comme on l'aurait fait il y a 4 ans. Voilà, c'est un sujet, en effet, low cost qui a déjà été vu. Donc là, le cahier des charges, c'est apprendre des nouvelles choses.
Moi, pour vous dire, j'ai commencé à le regarder avec des pieds de plomb. Et tout d'un coup, j'ai été complètement bluffé, avec envie de tout casser. Alors déjà, je vais commencer par quelque chose de plutôt soft. J'ai découvert qu'il y a une nouvelle compagnie française encore moins chère que les moins chères, chez French Bee. Le patron a accepté de vous parler. Pour quelle raison il a accepté?
Il a fallu le convaincre, il avait peur des pièges. Mais c'est une compagnie française, donc ils ont un petit peu moins de choses à cacher. Enfin, ils ont moins de choses à cacher, ils n'ont pas de choses à cacher par rapport à des compagnies européennes qui se basent sur les politiques extra-françaises et qui ne font pas toujours les choses dans les règles.
La palme revient à Ryanair. Je savais que leur système était élaboré, mais pas à ce point, pas avec ce degré de cynisme. Alors, comment font-ils pour avoir des prix de billets aussi bas? Si bas que si tout le monde paye le prix de son billet, le vol est déficitaire. Donc, il faut qu'ils trouvent de l'argent ailleurs. On découvre des choses absolument dingues. Les nouvelles conditions des bagages cabines, les dimensions ont changé.
C'est ça. Alors, il faut vous y retrouver. Dimanche, on vous montrera pour chaque compagnie, le bagage est différent. Donc, vous ne pouvez plus voyager avec un bagage cabine gratuit dans l'avion.
Alors que par définition, le bagage cabine, il tient dans la cabine.
Voilà. Là, non, maintenant, il faut le mettre sous le siège, en fait. C'est ça qui change.
Il y a l'enregistrement tardif. Si vous arrivez en retard, il faut payer en plus. Mais la palme, c'est l'erreur de nom. Surtaxe de la palme de la surtaxe la plus chère, j'y arrive, c'est la faute de frappe. Un passager, il fait sa réservation, il se trompe. Au lieu de mettre Philippe Vandel, il met deux fois Philippe. Là, en l'occurrence, il met deux fois Olivier. Que se passe-t-il ensuite au guichet? Vous avez filmé en caméra cachée.
Changement de nom à faire sur une personne, c'est ça?
C'est oui.
C'est Olivier?
Oui.
Olivier,
moi,
j'ai pas mis
mon
nom de famille.
C'est 160
euros
un changement de nom. Non, mais attendez, il n'y a pas de changement, c'est un rajout de nom. Parce que j'ai pas mis
mon
nom de famille.
Moi, j'ai Olivier, d'accord?
160 euros pour une rencontre.
Stupéfait, le père de famille doit débourser 160 euros, auxquels s'ajoutent 275 euros parce qu'il n'a pas enregistré les 5 passagers.
Un total de 435 euros.
C'est abusé, franchement c'est abusé.
Je précise qu'on a changé les voix et que la voix qu'on entend, la voix off, est la voix témoin parce qu'on a eu ce reportage hier et il y aura une autre version définitive dimanche. Que s'est-il passé ensuite? Il a payé les 435 euros?
Bien sûr, il n'a pas le choix. Hein. S'il ne paye pas, il ne part pas. Le prix de son billet qu'il avait peut-être payé 50 euros l'aller a été multiplié par 5.
Ça se passe à l'aéroport de Beauvais et les aéroports sont d'une certaine manière complices de ces agissements puisqu'ils touchent un pourcentage sur chaque billet, sur chaque vol.
Exactement, c'est-à-dire que le principe du low cost, c'est de déléguer la gestion des passagers dans les aéroports à des sociétés sous-traitantes ou à l'aéroport en lui-même. Et donc ça met un filtre, c'est-à-dire que quand vous avez une pénalité à payer, vous êtes face à quelqu'un qui n'a absolument aucune marge de manœuvre, qui ne peut pas faire de geste commercial, il ne représente même pas la compagnie aérienne, il représente une société externe.
Vous avez trouvé une de ces personnes, c'est une agente, elle reçoit les doléances des clients, elle ne fait pas de sentiment, hein. Elle applique la stricte procédure, ni plus ni moins. Les gens font face devant elle à un mur, elle est très cordiale, mais elle ne recule pas d'un pouce. Le passager doit payer le supplément, sinon il ne décolle pas. Mais lorsque vous interrogez cette dame en caméra cachée, parce que vous êtes fait engager, une journaliste de votre équipe s'est fait engager, elle découvre une autre réalité.
Ça te fait pas de la peine ?
Au début que j'ai commencé, ça me déchirait le cœur. Mais vraiment, parce que je suis trop sensible. Et du coup, à chaque fois, je crois que limite, j'aurais payé pour eux, tu vois.
Et maintenant, t'arrives à prendre du recul ?
Maintenant, ouais, j'arrive à prendre du recul. Je me dis, bah, c'est triste, c'est dommage, mais quand tu es ici, il faut presque que tu te mettes un masque, en fait.
T'as jamais pu faire de gestes commerciaux ?
Je peux pas, c'est pas possible, sinon c'est toi qui fais de ta poche, alors.
Guillaume Cahour, quelle liberté éditoriale avez-vous au sein de M6? Vous voyez venir ma question. M6 est une chaîne qui vit de la publicité. Ryanair est un annonceur potentiel. Comment ça se passe dans ces cas-là?
Alors déjà, nous, on travaille pour une agence de presse qui s'appelle STP Productions. On a réalisé cette enquête et on l'a vendue à Capital, à M6. On a eu absolument...
Ne faites pas le coup du prestataire. Comment ça se passe avec
M6? En l'occurrence, là, moi, je vous le dis en tant que prestataire, mais j'ai été aussi journaliste au sein de
Sur le contenu, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un de M6 qui regarde?
Non.
Voilà, c'était ça ma question.
Non. Là-dessus, il y a absolument... Le seul filtre qui peut exister, c'est le filtre juridique. Qui est à la fois, nous, on montre le reportage à notre avocate d'STP Productions, puis à également au service juridique d'M6, qui nous dit, attention, est-ce qu'il y a un risque juridique ou pas?
Mais personne de la régie de M6 vient vous dire, attention à ce que vous dites.
Catherine,
juste, vous vouliez dire quelque chose?
Pas du tout.
Ah bon, vous faisiez un geste, je pensais vous dire quelque chose. Autre chose complètement sidérante, c'est le cas de cette compagnie Volotea, une compagnie espagnole dont je découvre l'existence, avec des prix d'appel à 9 euros. Déjà, première question, comment on peut faire des prix? Comment on peut voler pour 9 euros? C'est moins cher qu'un taxi.
C'est ça, et c'est bien tout le problème. C'est que ça veut dire que la compagnie doit faire des économies gigantesques. Et on a découvert pendant cette enquête que ces économies, parfois, pouvaient poser des problèmes sur la sécurité.
Elle le fait sur le dos des pilotes.
Elle le fait sur le dos des pilotes. On a du mal à imaginer...
Et des stewards et des hôtesses aussi.
Bien entendu, il faut citer les stewards et les hôtesses aussi. On a du mal à imaginer, mais en France, on a des pilotes qui commencent payés au SMIC.
Alors, ils sont payés au SMIC. Encore, on peut se dire, tout le monde ne peut pas gagner beaucoup d'argent, mais sur la sécurité, c'est encore plus dingue. Je vais essayer de résumer. On leur fait faire le plus de rotations par jour pour que l'avion soit rentabilisé. Comme il y a un moment de contrôle effectué par le pilote, il faut diminuer ce temps de contrôle pour qu'il puisse repartir le plus vite possible. Et l'image que vous montrez qui m'a complètement séché, c'est qu'ils contrôlent les pales des réacteurs. Mais comme ils n'ont pas le temps, ils les contrôlent pendant que le moteur tourne.
Exactement.
Mais c'est comme si on devait contrôler les rayons d'un vélo avec la roue qui tourne. C'est invraisemblable.
Oui, les pales tournent à cause du vent, mais si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de voir les pales s'arrêter. Et c'est ce que nous raconte un pilote qui a accepté de témoigner et qui vraiment craint qu'un jour il y ait un accident.
Et ces rotations, c'est un enjeu économique primordial pour les compagnies low cost, parce que c'est ce qui leur permet de faire voler les avions le plus possible dans la journée et donc d'avoir le plus de passagers possible et donc d'encaisser le plus d'argent.
Vous continuez à voler sur des low cost depuis que vous avez fait ce sujet ou pas du tout?
Non.
Moi, j'ai des billets qui sont déjà réservé, donc je vais continuer, mais c'est vrai que ça pose question.
Pas sur toutes les low cost.
Merci beaucoup Guillaume Cahour, merci Catherine Just, je rappelle, compagnie low cost, toujours moins cher, reportage STP Productions, à voir dans Capital dimanche sur M6 à 21h.
Merci
d'avoir été avec
nous.
En direct, Culture Média qui continue après les infos de 10h. Nous sommes avec la chanteuse Suzanne qui part en tournée. C'est plus qu'une tournée, c'est une tournée des festivals. C'est long comme le bras, le nombre de dates avant la sortie de son deuxième album dont on connaît déjà deux titres qu'on vous fera entendre. Et puis dans les indispensables, on va parler littérature avec Nicolas Carreau et du phénomène énorme des lapins crétins avec Caroline Speller, Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. À tout de suite sur Europe 1.